on va un peu dézoomer sur le service pour parler un petit peu réalité chiffrée, avec fermeture de lits imposés, sous-effectifs chroniques, surcharge continue, recours abusif aussi aux contrats précaires, procédure dégradée devenue la norme. Je voudrais que tu nous expliques concrètement ce que c'est l'impact en fait de fermeture de lits sur votre organisation et aussi comment ça se traduit au quotidien quand c'est combiné avec le sous-effectif.
En fait, on a, dans notre service, on a 22 lits, donc 22 chambres, entre guillemets, parce qu'il y a certains services où on peut, donc une chambre peut avoir deux lits dans sa chambre, porte et fenêtre. Dans notre réa, on ne peut pas faire ça, parce qu'on n'a qu'un seul scope, qu'on appelle, donc les surveillances pour les constantes, qui sont répétées dans toutes les autres chambres, ainsi que dans nos salles de pause et voilà, nos autres salles. Donc c'est une surveillance qui est individuelle, donc chaque chambre à son lit. 22 chambres au total, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait minimum 11 infirmières pour pouvoir pallier à ces 22 chambres qui peuvent être remplies à n'importe quel moment. Mmh. Ce sont des choses, on ne peut rien prévoir en réanimation, on peut être avec 10 places vides à 14h, à 18h, on n'a plus de place. Parce que on a tout rempli dans l'après-midi, ça arrive plein de fois et il n'y a rien qu'on peut prévoir. Ces histoires de fermeture de lit, en fait, si on n'a pas l'effectif, on est obligé de fermer le lit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il manque une infirmière, il faut enlever deux chambres.
Tout à l'heure, en fait, comme il faut un certain nombre de professionnels.
Voilà.
Par,
si on n'a pas le nombre de professionnels, on ne peut pas accueillir le nombre de patients.
Donc on ferme des lits, on ferme une chambre.
On les ferme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'administrativement, ils sont fermés. Donc,
Physiquement, ils existent toujours.
Enfin, alors, physiquement, ils existent toujours, mais on n'a pas le droit de mettre de patients dedans.
Ouais, d'accord. Okay.
Et administrativement, tous les hôpitaux qui veulent éventuellement nous transférer, hôpitaux ou cliniques, nous transférer un patient. Même si ces deux lits physiquement existent, on ne peut pas mettre un patient dedans parce que du coup, il n'y a pas le personnel attitré pour pouvoir le recevoir. C'est inconcevable de devoir fermer des lits et de ne pas pouvoir accueillir un enfant, voire même des fois, c'est deux ou trois. C'est déjà arrivé qu'on ferme quatre chambres pour pallier à ce manque d'effectifs que la direction n'a pas réussi à trouver. Et, c'est-à-dire qu'on va peut-être fermer ces deux lits juste le temps de la nuit parce qu'il va manquer une infirmière et ils vont être réouverts le lendemain matin à 7h parce que l'effectif sera au complet à 7h. Après, il peut y avoir des fermetures imposées qu'on nous appelle, c'est-à-dire que s'il y a besoin essentiellement dans un autre service, parce que y a un gros manque de personnel et qu'éventuellement on a 10 places, donc 10 chambres sans patients, la direction va dire que du coup on est large, entre guillemets, et qu'on peut donc même se permettre de fermer deux lits pour qu'une infirmière peut aller dépanner dans un autre service le temps d'une nuit ou d'une journée. On lâche pas parce que personne n'a l'air de comprendre qu'en fait on reste un service d'urgence et que à tout moment on peut remplir ces lits très rapidement en fait, et il n'y a aucune logique. On peut être très tranquille et avoir le temps de faire plein de choses et une heure plus tard on attend quatre entrées d'un coup, et en fait si on est bloqué sur nos entrées, la charge elle devient hyper importante.
Moi c'est ce que ça me renvoie en fait, une espèce de gestion comme un jeu en fait, où tu déplaces du personnel pour ouvrir des lits ou fermer des lits. Quelqu'un avec une grille devant lui, un logiciel, et pour allumer ou éteindre des lits.
C'est exactement ça. C'est pour ça que dans nos vidéos et toutes nos interventions, on dit qu'on n'est pas des tableaux Excel. C'est qu'en fait, tout est fait à base de chiffres. Par exemple, on va compter donc effectivement ce nombre de places pour essayer de gérer les transferts dans les autres services, tout ça. On va se dire, il y a de la place, donc ça veut dire que les patients peuvent rester un peu plus longtemps en réa et pas forcément être transférés directement dans un autre service alors qu'ils ne nécessitent plus de la réa. Après, ça peut être aussi donc, ce qu'on appelle les chiffres de 1108, 1107, parce que dans notre service où on a donc 22 chambres, on a des enfants qu'on appelle relevant de la réanimation néonatale, qu'une infirmière qui gère ces patients-là. Et les auxiliaires de puériculture ne gèrent que les enfants relevant de la réanimation pédiatrique, qu'on appelle. Donc ce sont des termes qui sont faits au niveau de l'entrée administrativement. Ces patients-là sont comptabilisé à longueur de journée. Parce que vu que nous, en tant qu'auxiliaire de puériculture, on peut accueillir que 4 patients par auxiliaire de puériculture, très souvent, comme on dit, les chambres n'ont pas de frontières et que en fait, on peut accueillir plein d'enfants qui relèvent de la réanimation pédiatrique, alors que dans les chiffres, il n'y a plus assez d'auxiliaires. On est 3 auxiliaires dans les soins. Si on a atteint nos 12 enfants potentiels au maximum, ça veut dire qu'après, si on dépasse ce chiffre-là, on accueille un accident de voiture où il y a 3 enfants dedans, ce qui est déjà arrivé, on est au-delà de nos capacités et là, on n'a pas le personnel adapté.
L'hôpital public est-il à l'agonie ? Il n'est plus rare d'annuler des interventions faute de personnel soignant.
Là, c'est la chambre d'un enfant qui devait être opéré aujourd'hui. Par manque d'infirmières anesthésistes, on l'a annulé, il est reparti chez lui. Que ce soit les médecins ou les paramédicaux, on est résigné. C'est-à-dire qu'avant, annuler un patient le matin même, c'était une petite catastrophe quand même, une catastrophe psychologique. Là maintenant, on va voir les gens, on dit non, ça ne va pas être possible.
Des fois, il faut qu'on descende aux urgences, où on n'est pas formé du tout en fait. Donc on se met en danger, on met en danger les patients, et puis c'est assez stressant quand même.
Et à l'échelle nationale, c'est pire. Une enquête du Conseil scientifique révèle que 20% des lits sont fermés en France.
Un mal-être qu'elle explique par la politique de réduction des coûts. Dans son service, Isabelle assure que 9 aides-soignantes et 3 infirmières sont parties l'an dernier à la suite de la fermeture d'une vingtaine de lits. Alors aujourd'hui, compliqué pour elle de pouvoir assurer son travail correctement.
Soigner, ce n'est pas possible avec moins d'argent. On fonctionne en termes de qualité et non pas de rentabilité.
Ce combat, nous le menons pour Tom, Ludovic, Inaya, Lia, Mohamed, Jules, Marius, Léna. Des enfants qui ont un prénom, une histoire, un visage. Pas des chiffres, pas des lignes sur un tableur. Pourtant, aujourd'hui, notre service est vu comme un tableau Excel. Des taux d'occupation à atteindre, des soignants à déplacer, à épuiser, à remplacer. Un lit vide devient un lit fermé. Une soignante devient une ligne mobile qu'on envoie ailleurs. Un contrat précaire devient un pion variable au gré des besoins. Mais que devient l'enfant dans tout ça ? Que devient votre enfant si demain il a besoin de nous et qu'il n'y a personne pour l'accueillir ? Non par manque de volonté, mais parce que les quotas sont déjà atteints. Parce que ces codes 1107, 1108, froid et administratif dicte désormais qui peut entrer.
En plus, ce que je perçois moi comme une violence, c'est le fait que c'est au jour le jour que cet ajustement de la direction arrive. Il n'y a pas de visibilité sur ces lits qui vont être ouverts, fermés. C'est une forme aussi d'impossibilité, de tranquillité et de quiétude, puisque tu ne sais pas si dans 3 heures, on ne va pas privilégier peut-être notre service, fermer des lits, etc.
Exactement. C'est vraiment d'heure par heure et c'est pour ça que c'est épuisant tous les jours de devoir se dire ça y est, on est passé à 12 enfants 1108 qu'on appelle pour les oxy, et qu'en fait il y a encore 3-4 places de disponibles, et qu'à tout moment on re-remplit avec ces enfants là qui peuvent être en plus très lourds. Ça peut être des enfants qui vont nous demander des heures auprès de lui quand on fait une entrée qui est en urgence. Ça demande énormément de temps dans cette chambre, qu'il faut équiper ce patient, et on reste longtemps dans les chambres. Et après, les autres patients, soit c'est l'autre infirmière qui gère, mais du coup elle est toute seule, elle est plus en binôme avec son oxy. Ça entraîne un défaut de surveillance et de sécurité.
Et en tout cas, si en plus vous devez intégrer comme charge de travail la possible fermeture de lit, je comprends que ce soit complètement et déstabilisant et surtout très violent pour vous, et évidemment par effet domino pour les enfants dont vous occupez.
Et en plus, comme on n'arrête pas de le revendiquer, c'est que un lit vide n'est pas un lit fermé. Ce qu'on appelle, c'est qu'un lit vide ne veut pas dire qu'il peut être fermé. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut accueillir un patient.
C'est des urgences.
Exactement. C'est un service d'urgence. Donc à tout moment, ce lit peut se remplir. On ne peut pas se permettre de fermer des lits et se dire qu'il n'y aura pas de patient par chance parce qu'on pense qu'on est large au niveau des places. Ce n'est pas possible.
C'est tout un imaginaire qui a été beaucoup repris dans les médias, justement. Lit vide égale inoccupé ou inutile. Et c'est hyper intéressant, peut-être établir une sorte de vérité. Et surtout, moi je pense vraiment que dans cet imaginaire-là, ça conduit aussi à dire vous bossez pas, toi, lit vide égal, en plus vous ne travaillez pas.
C'est exactement ça. Et en plus, ce qu'on n'arrête pas de revendiquer, c'est qu'en fait, on va avoir des places. Donc effectivement, sur le statut, par exemple, nos cadres, les cadres de garde vont arriver. Devant, on a un grand tableau dans notre service où on a toutes les chambres qui sont notées avec les patients qui sont notés dedans. Donc effectivement, les places sont visuellement en plus lisibles. Donc on va se dire, ah ben là, oh là là, mais ça veut dire que là, il y a 5 places. Bon ben là, c'est bon, il peut y avoir donc une infirmière qui va aider dans un autre service, où là, il n'y a pas besoin de renforts. Ben, nous, c'est les renforts auxiliaires de puériculture qu'on défend essentiellement parce qu'on est souvent au-dessus des normes. À un moment donné, voilà, les cadres vont arriver, vont dire « Ah ben là, c'est bon, vous êtes large. » Sauf qu'eux, ils vont voir le chiffre et le nombre de places. Mmh. À aucun moment, les gens viennent dans les chambres pour voir ce qui s'y passe. Par exemple, moi, en tant qu'auxiliaire de puériculture, j'ai 3 patients. Mais on a des patients qui sont très lourds où on reste la nuit entière dans la chambre. Et ça veut dire que même si j'ai que deux autres patients et que je pourrais même en prendre un quatrième... Je n'ai pas le temps d'aller les voir parce que ce sont des patients qui sont très lourds et on reste dans la chambre pendant des heures et des heures en binôme avec l'infirmière. Et ça, on n'arrête pas de le montrer, de vouloir le prouver parce qu'on ne nous écoute pas et qu'on ne s'intéresse pas à notre charge de travail. On voit les places, les nombres, mais la charge en soins est inexistante, en fait, pour la direction.
Accepteriez-vous qu'on vous dise qu'il n'y a plus assez de soignants pour assurer sa sécurité ? Nous, jamais. Nous avons toujours cette volonté d'être là, de bien faire, d'aimer notre métier malgré tout et d'offrir à chacun un accompagnement de qualité. Soigner, ce n'est pas juste appliquer un protocole. C'est un engagement émotionnel, humain, profond. C'est faire abstraction de nos propres douleurs pour accueillir celles des familles. C'est inventer un monde rassurant dans un environnement fait de machines et de silence. C'est savoir pleurer, mais toujours après.
Certes des gestionnaires, je veux dire, mais comment ne pas le savoir? Tu passes dans un hôpital quand même, et tu fais pas parking ton bureau, tu te rends compte de ce que c'est quand même la vie d'un hôpital où tu fais semblant, c'est du déni, c'est impossible de passer.
C'est la preuve, depuis qu'on a commencé notre mouvement, on s'aperçoit vraiment que justement ils ont pas notion de tout ce qu'on fait, parce que ils se rendent vraiment pas compte. On est obligé de tout prouver. On a été obligé de noter sur des feuilles pour spécifier les soins longs qu'on faisait, par exemple les poses de cathéter, les intubations difficiles. Des fois, on a même des rendez-vous sur les IRM, les scanners, des IRM qui sont à PPR, donc à Pierre-Paul Riquet, donc en face. On passe sous le tramway avec notre patient intubé, des fois, donc avec respirateur. Sous le tramway, et on en a pour presque 2 heures, et c'est le personnel de cet enfant qui part pendant 2 heures du service. Et tous ces soins-là, on a été obligé de les prouver, de les spécifier exactement qui était avec nous, un interne, un médecin, une auxi, 2 infirmières, combien de temps on fait un dépansement. On a des patients qui sont restés très longtemps dans notre service, avec des grosses brûlures, des pathologies où il faut faire des pansements quotidiennement, enfin, plusieurs fois par heure, des fois, et qui dure, mais des heures et des heures entières. Et ça, en fait, on a été obligé de le prouver, parce que justement, ils n'ont pas notion de tout ça.
Ouais, c'est une stratégie un peu classique, je dirais, de contrôle et de surveillance quand même du personnel. Enfin, si vous commencez à devoir justifier le temps que vous passez à faire des soins, ah, parce qu'on est dans le soin quand même, une nouvelle fois.
Alors, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'on est hors norme, c'est-à-dire qu'effectivement, on est hors norme, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné l'opportunité d'avoir une infirmière en plus des normes, c'est-à-dire que vu qu'on a 22 chambres, on a 11 infirmières jour et nuit qui sont dans les soins, et on a une infirmière référente qu'on appelle, donc comme j'expliquais, qui gère tout ce qui est soins avec les médecins, la pharmacie, les traitements, tout ça. Cette infirmière-là, ils nous le disent qu'elle est hors soins, enfin qu'elle est hors norme, donc c'est du bonus pour nous. Et en plus, on a 2 auxiliaires de puériculture qui sont affiliés à l'accueil et la logistique. Ces personnes-là, elles sont indispensables à notre service, c'est-à-dire que si on nous les enlève, on ne peut même plus faire notre travail, c'est-à-dire que ça devient catastrophique. C'est qui gère le matériel, qui gère la décontamination du matériel. Si on n'a plus de matériel pour intuber un enfant en urgence, pour réanimer un enfant, on fait comment? Si on n'a plus les traitements pour les patients, pareil, en urgence, on fait comment? S'il n'y a plus personne qui répond au téléphone, qui fait les entrées pour qu'on puisse prescrire les traitements, qu'on puisse avoir accès aux dossiers administratifs et tout ça. En fait, ce service ne peut pas tourner si on n'a pas ces personnes-là. Donc, que la direction n'arrête pas de nous dire qu'on est hors norme, ça nous fait suer.
De son côté, la direction de l'hôpital assure que l'unité fonctionne avec des effectifs conformes et supérieurs au seuil réglementaire, avec un nombre de soignants par lit au-delà des recommandations. Mais cela ne correspond pas à la réalité selon le personnel soignant, qui demande notamment l'embauche de 13 personnes dans le service.
Et après, on a besoin de reconnaissance donc de nos postes transverses, de la fidélisation de nos contrats précaires, qu'en fait, on a besoin de garder les compétences de notre service. Donc toutes les personnes qu'on forme, on a besoin qu'elles soient qui restent dans notre service en fait et pas qui sont envoyés ailleurs.
Des revendications qui ont poussé le service à créer un compte Instagram avec des vidéos cumulant plusieurs millions de vues en moins d'une semaine, et cela pour alerter l'opinion publique.
Vous communiquez beaucoup, vous mobilisez aussi la presse, etc. Mais c'est difficile d'avoir des possibilités de pression sur une direction de Purpan, quoi.
Alors, je pense pas qu'elle reste... On peut pas dire qu'elle reste sourde dans le sens où il reste insensible et qu'il se passe rien, parce qu'on sait très bien qu'ils ont beaucoup de réunions, tout ça. Malgré tout, nous, ce qu'on a besoin, c'est de preuves. Mmh. Et quand on dit qu'elle reste sourde, c'est parce que les preuves n'arrivent pas. On sait très bien qu'il y a des possibilités et qu'en fait, ces possibilités sont repoussées et on ne nous les apporte pas.
Être identifié comme faisant partie, des personnes contestataires, etc., est-ce que ça a créé des tensions particulières avec la direction ?
Les personnes qui se montrent, entre guillemets, qui allons vers la presse, tout ça, on a été identifiés, on s'est proposé pour le faire. Aussi, il faut le dire, on a la sécurité de l'emploi, on est déjà titulaire, on est là depuis de nombreuses années. On ne va pas demander à des personnes qui viennent juste d'arriver en CDD d'aller le faire. Même ces personnes-là ne se déclarent pas grévistes, c'est totalement normal. On ne pense pas qu'on sera ciblé.
Nous vous alertons, pas par choix, par nécessité. Parce que nous refusons de cautionner un système qui maltraite les soignants et met en danger les enfants. Alors à vous qui nous écoutez, nous demandons une seule chose. Soutenez-nous, car nous ne pouvons plus compter sur ceux qui nous dirigent. Notre combat, c'est de dire enfin stop. Stop au manque de personnel, stop aux fermetures de lits, stop aux contrats précaires, stop aux arrêts maladie pour burn-out, stop aux soignants à bout, stop aux discussions sans réponse, stop à la maltraitance institutionnelle. La réanimation pédiatrique et néonatale, c'est une équipe solidaire, passionnée, profondément engagée. Une équipe qui veut travailler dignement et en sécurité. Ce combat, c'est pour eux, pour nous, pour vous, pour la vie.
La direction réfléchit un peu comme ça. Elle compte aussi beaucoup sur votre dévouement, etc., etc., etc. Sur des petits arrangements, et puis on avance, quoi.
C'est exactement ça. Les personnes qui sont fixes de nuit sont censées faire moins d'heures parce que c'est un travail qui est difficile de travailler que la nuit au niveau de son rythme physique et au niveau de sa santé. Ces personnes-là doivent avoir, c'est-à-dire, une trame sur l'année qui est censée être que de nuit. Chose qu'on n'a pas et qu'on aimerait revendiquer justement pour qu'elles puissent savoir quel jour elles travaillent et pas ne travailler... longtemps à 100% pendant 3 semaines et après leur donner des périodes hyper légères plus tard. C'est pas ça le deal. En parallèle, c'est un peu le même principe pour les personnes qui sont à temps partiel, qui sont à 80%, voire même à 50% pour des temps partiels thérapeutiques. Ces personnes-là sont censées être à 80% sur la semaine. Et pas sur l'année, c'est-à-dire que c'est pas on fait 100% pendant 6 mois et après pendant un mois on nous donne on fait du 10% et après on repart pour du 50% sur un autre mois. C'est censé être lissé justement pour des convenances personnelles souvent, même si ce sont des temps partiels qui sont de droit, donc suite à un congé maternité on a le droit d'être à 80% pendant 3 ans, c'est pas quelque chose qu'on fait aussi parce qu'on perd de l'argent. Donc si on perd de l'argent mais qu'à côté de ça on continue d'être à 100%, c'est pas normal. On a un service où on est hyper soudés et solidaires et en fait on a puisé dans toutes nos ressources justement depuis des années pour trouver des fonctionnements, pour pallier aux arrêts maladie. Tout le monde change son planning, tout le monde revient sur des heures sup. Et en fait, quotidiennement, là, on est arrivé à un moment donné où justement l'équipe est complètement épuisée de faire tout ça. Et c'est pour ça qu'on a alarmé à ce moment-là. Alors.
Cette infirmière de néonatologie vient d'être appelée par sa direction. Elle revient travailler sur ses jours de congé. La cause, une de ses collègues est malade. Depuis plusieurs mois, les puéricultrices doivent régulièrement sacrifier leur repos hebdomadaire pour assurer des remplacements.
Soit on revient sur notre temps de repos et on arrive à nous redonner un peu plus tard un repos hebdomadaire en suivant, ou alors c'est des heures supplémentaires. Ben, l'état des collègues, c'est surtout qu'on a une équipe qui est complètement épuisée, au bord du burn-out. N'ayons pas peur des mots, hein, ça, voilà. Et si on tape du poing aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en peut plus.
Alors, est-ce que tu peux peut-être nous décrire ce que signifie faire un travail mal fait ?
Le travail mal fait, il se caractérise essentiellement par le manque de temps. Le manque de temps, c'est le manque de personnel. Clairement, c'est de pouvoir déléguer certaines activités, certaines tâches à d'autres collègues et du coup pouvoir faire nos missions à 100%. Faire une surveillance, la réanimation pédiatrique, c'est des surveillances qu'on appelle horaires. Donc on est censé être toutes les heures dans les chambres de nos patients pour faire des surveillances. Donc on surveille tout parce qu'un enfant peut se dégrader très très rapidement. Que ce soit au niveau de sa tension, sa température, sa dynamique respiratoire, tout ça, on est obligé de le surveiller toutes les heures. Quand on a 4 patients en tant qu'auxiliaire de puériculture et des fois qu'on nous rajoute des patients, qu'on peut passer à 5-6 patients par auxiliaire de puériculture, c'est infaisable d'être toutes les heures dans les chambres. Donc ça veut dire que c'est l'infirmière qui va faire la surveillance horaire toute seule. Donc forcément, la surveillance va être moins qualitative, on va dire, parce que il n'y aura qu'une seule surveillance qui va être faite par l'infirmière, alors que si on est deux, les surveillances sont faites de manière optimale et on peut aussi faire des soins de qualité et de ne pas les faire rapidement, de ne pas faire un soin et de se dire je le note même pas sur notre logiciel de surveillance, je fais le soin, je change la couche et je m'en vais. Travailler en binôme, c'est pas venir faire un changement de couche ou moucher un enfant et s'en aller. Faire un soin en binôme, c'est de le faire de A à Z, c'est-à-dire faire la surveillance entière de ce patient-là, de faire le soin de manière qualitative. Et en plus, dans la pédiatrie, on a énormément, ce qui nous prend le beaucoup de temps, c'est la gestion des familles. Ces parents qui sont à côté de là, qui vont demander des conseils, qui vont demander de l'accompagnement, du soutien, des parents qui sont complètement anéantis. On a besoin de prendre le temps pour discuter avec eux. C'est pas quantitatif de prendre le temps avec eux pour parler et les rassurer. Il y a des familles, par exemple, quand on dit qu'on fait un travail mal fait, ça veut dire qu'on est obligé de prioriser des soins. C'est-à-dire qu'on a donc plusieurs infirmières. Des fois, vu qu'on a 4 patients, on peut aller jusqu'à 4 infirmières différentes. Parce que les infirmières se sont réparties de manière équitable. Et donc, on peut avoir des fois 4 infirmières différentes. Travailler en binôme avec 4 infirmières différentes, forcément, il faut qu'on s'organise au niveau de nos soins. On va aller à la priorité. Vu qu'on reste dans un service de réanimation, la priorité, ça va être les soins lourds, les soins d'urgence. Par exemple, une toilette va passer après la pose d'une perfusion, des choses comme ça. L'infirmière qui va rentrer dans la chambre et qui va du coup faire un soin sans son auxiliaire de puériculture va être à la rencontre de ces parents-là. Et nous, l'auxiliaire de puériculture, vu qu'on a priorisé nos soins et qu'on a dû aller dans une autre chambre pour faire un autre soin, des fois, il arrive qu'on arrive dans la chambre de notre patient, vu qu'il n'a pas eu besoin spécifiquement d'avoir un soin en binôme avec l'infirmière et l'auxiliaire de puériculture, on arrive des fois des heures après qu'on ait commencé notre travail. Les parents, ils nous voient, des fois, il est 11h. Leur dire bonjour quand on est l'auxiliaire de puériculture qui s'occupe de ce patient et lui dire « je suis l'auxiliaire de puériculture, mais vous ne m'avez pas vu de la journée » ou alors « vous m'avez vu une fois ou deux de la journée », en fait, c'est juste pas possible de se dire qu'on est censé avoir des surveillances horaires, travailler en binôme avec une infirmière et qu'on arrive à faire que deux fois un soin en binôme. C'est juste pas possible pour nous. Par exemple, des fois, on n'a même pas le temps d'installer leur enfant dans les bras tellement le service est en chaos. Ça arrive, hein, des fois, même souvent. Et du coup, on ne peut pas prendre le temps de mettre un patient dans les bras de ses parents parce que ça demande des grosses installations, c'est très dangereux, des enfants qui sont sous respirateur, il faut veiller à énormément de sécurité pour pouvoir les installer. C'est des soins qui doivent durer des heures parce qu'on ne peut pas les installer pour qu'ils fassent un câlin de 15 minutes, 30 minutes. C'est des soins qui doivent durer pendant au moins 2 heures. En général, quand on installe un bébé dans les bras de son papa ou de sa maman, les prématurés, ils ont essentiellement besoin pour leur développement du pot à pot, qu'on appelle. C'est essentiel pour eux, pour leur croissance et leur guérison. C'est essentiel de faire justement du pot à pot. C'est essentiel pour le lien déjà d'attachement du parent envers son enfant qui est hospitalisé. C'est-à-dire que le lien est forcément différent et que c'est essentiel de le préserver. Donc ça passe par ce câlin, ça passe pour la régularisation de la température, mais aussi pour la guérison. C'est prouvé que de faire du pot à pot avec son parent, ça diminue les hospitalisations. Tout ça fait que, en fait, si on ne peut pas prendre le temps de faire tout ça, ce sont peut-être des enfants qui vont rester plus longtemps dans nos services. Mmh. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable et qu'on ne peut pas réussir à prouver.
Il y a 6 ans, ma vie s'est effondrée dans une chambre d'hôpital. Parce que je connais trop bien ce service. Parce que ce qu'on y vit nous marque à jamais, dans notre chair, dans notre cœur, dans notre mémoire. Parce que derrière les murs de la réanimation pédiatrique, il y a des femmes et des hommes qui donnent tout. Des soignants qui tiennent debout alors que tout s'effondre autour d'eux. Qui pensent, qui veillent, qui accompagnent, souvent au prix de leur propre santé. Aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous. On ne revient jamais indemne d'un lieu où l'on regarde son enfant se battre pour vivre. Et pourtant, dans ce chaos, il y avait eux. Des soignants qui ne sauvent pas seulement des vies, ils tiennent les parents quand tout s'écroule. Ils regardent la mort en face sans jamais détourner les yeux. Ils donnent, encore et encore, même quand leur propre force vacille.
Stars are on the run until your heart can breathe the light into. jamais.